Caroline Brouet, cette semaine avec...
François Crémieux, je suis directeur d'hôpital, marseillais depuis peu, parisien pendant longtemps et avec quelques voyages ces dernières années.
Quatrième épisode, à l'hôpital public. Bonsoir, bonjour François Crémieux.
Bonjour et bonsoir.
Après l'aventure américaine qui a marqué votre adolescence et les premiers engagements politiques, après l'épreuve de la Bosnie, ce qu'on a abordé dans le deuxième épisode, et dans le troisième, les mois passés au Kosovo, en Afghanistan et ailleurs pour diriger des établissements de santé, aujourd'hui j'aimerais aborder votre expérience de directeur d'hôpital en France, à la PHP, depuis Louis Mourier à Colombes dans les Hauts-de-Seine, l'Hôtel Dieu, les hôpitaux du Nord de Paris, jusqu'à Marseille, mais aussi peut-être d'autres responsabilités plus directement politiques au cabinet de la ministre de la Santé Marisol Touraine et à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Autrement dit, après le temps de la guerre et celui de la reconstruction post-conflit, le temps de la paix, votre action et votre réflexion sur les politiques de santé en France depuis, disons, 20 ans. Bon. Pour la première question, en fait, j'aimerais vous poser celle que vous avez posée à Bayram Recepi dans Un maire au Kosovo. Est-ce que la guerre, François Crémieux, a changé votre relation personnelle à la vie?
Alors d'abord, je serais tenté d'essayer de me souvenir quelle avait été la réponse de Bayram Recepi à cette question. Et je ne sais plus ce qu'il y répondait. Est-ce que la guerre a changé mon rapport à la vie? Je ne crois pas. La guerre, ou plutôt les moments de guerre, encore une fois, il faut regarder cette histoire, c'est-à-dire la mienne, avec quand même l'humilité de celui qui d'abord n'a eu que des moments de guerre et des moments très courts, et d'autre part des moments choisis par rapport à tous ceux qui subissent la guerre. Et je pense que l'une des différences majeures, notamment dans les traces et les souvenirs que la guerre peut laisser, est de savoir si on y est allé ou si elle est venue à vous, si vous l'avez subi ou si vous êtes dans une certaine mesure allé à la rencontre du conflit ou de la guerre. Je suis clairement dans la catégorie de ceux qui ont fait le choix à plusieurs moments, mais notamment au moment de la Bosnie, d'y aller. Donc non, je ne crois pas que la guerre ait... et modifier mon rapport à la vie, je suis même à peu près sûr du contraire. En revanche, les moments de tension, que ce soit en Afghanistan ou au Kosovo ou en Bosnie, sont des moments qui permettent ensuite, avec le souvenir, de se remémorer ce qu'ont pu être des moments d'intensité, à la fois d'intensité parfois physique, et dans certains cas autour des enjeux de violence, mais surtout d'intensité des enjeux humains, des choix que sont amenés à faire les uns ou les autres. Et donc je trouve que ça renvoie, en tout cas pour ce qui me concerne, à des enjeux qui touchent beaucoup à la question de la responsabilité et du fait que face aux événements tels qu'ils se projettent à nous ou tels qu'on les vit, on a les uns et les autres, et plus encore ceux qui sont dans des situations de guerre, un devoir de responsabilité.
Une autre façon de poser la question serait de vous demander si avoir dirigé des hôpitaux dans des pays en guerre ou en conflit, disons, ça permet de relativiser quand on revient dans des pays en paix comme en France?
Non, ça je suis sûr que non. Alors d'une part, je n'ai dirigé qu'un seul hôpital dans un pays en guerre qui était Mitrovica au Kosovo. Et non, ça ne permet pas de relativiser. Je trouve au contraire que ça permet de se rappeler que les situations ne se relativisent finalement pas tant que ça les unes par rapport aux autres, et que certaines situations qu'on peut vivre aujourd'hui à Marseille, dans un contexte qui n'a évidemment rien à voir avec ceux qu'on a pu évoquer, ben elles ne se relativisent qu'à l'aune d'elles-mêmes, mais à l'aune de ce qu'en vivent ceux qui sont dans ces situations-là. Et donc, non, je ne crois pas que ça relativise. En revanche, ça peut relativiser, ou en tout cas, ça peut mettre en perspective ma propre perception des événements, effectivement le fait que il y a une grande histoire et qui est avec parfois ces moments tragiques, et puis dans notre quotidien, et notamment dans mon quotidien de gestionnaire, de directeur d'hôpital, des moments qu'il faut probablement ramener à leur juste proportion.
Bon alors, directeur d'hôpital. Directeur d'hôpital, est-ce que c'est un souhait, un vœu, un désir, pas tout petit déjà, parce que on a bien compris dans la première émission notamment que c'était pas forcément une voie toute tracée, disons, que vous l'aviez choisi en étant étudiant. Mais je me souviens vous avoir demandé avec presque étonnement pourquoi vous étiez tourné vers l'économie plutôt que vers les sciences politiques. Alors je vais vous la poser, puisque cette question je voulais pas vraiment poser directement, je vais la poser là. Finalement, les études d'économie puis de santé sont venus à vous avec cette envie déjà à étudiant d'être directeur d'hôpital?
Non, j'ai fait des études d'économie avec l'envie de faire de l'économie, et je trouvais que la science économique est une science crois, très politique. Donc, pour moi, il n'y avait aucune contradiction entre l'intérêt pour le monde tel qu'il va et pour les enjeux de société ou les enjeux politiques et le choix de l'économie. Et quand on étudie l'économie, on étudie, c'est un des prismes possibles de la compréhension du monde, et y compris de pouvoir influer sur le monde et changer le cours des choses. Et donc, ça explique probablement le choix de l'économie. Et ensuite, quant au choix du métier, je me souviens m'être dit que je souhaitais exercer un niveau d'intervention dans la société qui me permette à la fois d'avoir prise sur le cours des choses, encore une fois, et je crois que le métier de directeur d'hôpital le permet, mais également de rester connecté à la réalité, on dit à la réalité du terrain, à la réalité du quotidien. Et je trouve que le métier de directeur d'hôpital est un des métiers, pas le seul, mais un des métiers qui permettent d'être, entre guillemets, à cette bonne distance, à la fois du terrain et du politique, et d'être parfois vraiment les mains dedans, les mains dans le cambouis, les mains dans la réalité pour essayer de régler les problèmes. Et puis à d'autres moments, soit de la journée, soit d'une carrière, d'être voilà, avec un regard plus éloigné du quotidien.
Médecin, non, jamais ?
Non, la question ne s'est pas posée. Un peu parce que, n'ayant pas été très bon élève, la question ne se serait de toute façon pas posée au moment où il aurait fallu que je fasse ce choix-là. Et puis d'autre part, non, je crois que j'étais très intéressé par des enjeux d'ordre plus globaux, plus sociétaux, probablement avec une vision erronée à l'époque de ce que l'on pouvait faire avec le métier de médecin, ou à l'inverse, de combien un métier de directeur d'hôpital pouvait être différemment, mais comme le métier de médecin, très ancré dans la réalité. Mais il n'empêche, voilà, j'ai choisi d'aller faire de l'économie sans hésitation avec la médecine. Et d'ailleurs, à l'époque, sans même imaginer d'aller travailler dans un hôpital. Et donc, la question ne se pose qu'à posteriori. Elle n'avait pas lieu d'être au moment où j'avais 19 ou 20 ans.
Et quand les questions se sont posées, ensuite, hein, quand vous êtes vraiment devenu directeur d'hôpital et que vous avez enchaîné les différents postes, vous êtes toujours dit ce sera à l'hôpital public, puisque finalement la carrière fut assez longue, elle reste longue dans l'hôpital à assistance publique hôpitaux de Paris, puis assistance publique hôpitaux de Marseille.
Ouais, ça pour le coup sans aucun doute. Peut-être par référence à des parents qui eux aussi avaient dans des contextes différents agi pour le service public. Mais oui, sans aucune hésitation, et aujourd'hui avec une conviction absolue que le service public dans pas mal de domaines, c'est vrai de la justice, c'est vrai de l'école ou de l'éducation, c'est vrai de la sécurité, je crois que c'est vrai de la santé. Le service public est aujourd'hui non seulement un pilier de l'organisation de notre société, mais au-delà d'être un pilier, je pense qu'il est un des garants, le service public est un des garants des risques que nous avons devant nous et des risques que l'on a eu l'occasion d'évoquer quand on a évoqué les années 80 et l'antiracisme, les années 90 et les mouvements antiracistes encore, ou les enjeux autour de la montée des extrêmes et du complotisme aujourd'hui. Tout ça est un peu vite dit, mais je pense que oui, les services publics et le service public hospitalier est un des éléments qui est aujourd'hui garant d'un certain vivre ensemble et d'une certaine d'une démocratie à laquelle je suis attaché.
Alors qu'est-ce qui a changé entre le moment où vous avez pris vos premières fonctions au début des années 2000, à l'hôpital hein, bien sûr, et 20 ans plus tard ?
Alors, d'une part, j'ai 20 ans de plus. Et pas tout à fait les mêmes responsabilités, donc je ne vois plus le système tout à fait du même endroit. D'autre part, ce qui a changé, c'est incontestablement une situation générale et une situation économique du pays qui est différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a 20 ans, et donc des contraintes très concrètes hein, au quotidien, notamment des contraintes budgétaires qui ne sont pas les mêmes dans un pays très fortement endetté et dans la situation des finances publiques qu'on connaît aujourd'hui, et d'une situation qui était moins le cas il y a 20 ans, même si c'était déjà compliqué. Donc, très objectivement, la situation financière du pays a des impacts. Mais plus que ce qui a changé, moi, ce qui me marque est probablement les constantes entre il y a 20 ans et aujourd'hui. Je travaille beaucoup en ce moment à Marseille sur la question de l'accès aux soins dans les quartiers nord et mais dans les quartiers populaires de Marseille. Il se trouve que mon premier stage de directeur d'hôpital stagiaire en France était à Montfermeil, à une époque où on parlait beaucoup de la cité des Bosquets, de la situation à la fois du côté de Clichy et de Montfermeil. Et je trouve que l'une des caractéristiques entre les années 2000 et aujourd'hui est au contraire une certaine constance sur les enjeux d'accès aux soins, d'inégalités de santé qui restent très fortes et qui ont plutôt tendance à s'accroître qu'à diminuer, d'enjeux d'inéquitable répartition à la fois de l'offre de soins, mais au-delà de ça, de l'accès à la santé. Donc je crois être plus marqué par la continuité que par des grandes ruptures entre il y a 20 ans et aujourd'hui.
Vous avez était directeur du pôle établissement de santé à l'Agence régionale de santé Île-de-France avec Claude Évin. C'était entre 2010 et 2012. Est-ce que là, en travaillant justement sur l'offre de soins, vous a frappé cette question des inégalités? D'ailleurs, c'est une constante quand on regarde votre parcours, puisque vous avez commencé en parlant des discriminations, qu'elles soient aux États-Unis ou qu'elles soient en France. La fracture sociale, dans l'offre de soins en l'occurrence, mais les inégalités, c'est quand même une des choses qui vous a guidé dans tous vos engagements. Est-ce que il vous tient à cœur, où que vous passiez, de réduire ces inégalités? Et est-ce que c'est ce que vous avez tenté de faire à l'ARS?
Peut-être qu'il y a deux manières, sûrement pas les deux seules, mais deux manières d'être très fortement marqué par les inégalités. La première, c'est d'en être victime, qu'on en soit victime parce qu'on est pauvre, parce qu'on est étranger, parce qu'on est une femme, parce qu'on est victime d'une inégalité. Mais peut-être que l'autre manière, c'est de mesurer à quel point on en est préservé et à quel point on est au contraire, à aucun moment, face à un risque d'être victime d'inégalité, parce qu'on est au contraire, et sans être trop caricatural, un homme blanc, inséré, ayant fait des études et ayant un métier agréable à exercer. Et je pense effectivement que je suis depuis très longtemps marqué, et peut-être là aussi par éducation, par cette caractéristique-là et la conscience que je ne suis pas devenu ce que je suis par une intelligence différente de quiconque autre, mais par le fait que je suis né là où je suis né, dans la famille où je suis né, et donc bénéficiaire de ces très grandes inégalités. Et donc, au-delà d'en être le bénéficiaire, ou en tout cas, j'essaie d'abord d'en tirer le meilleur parti, y compris pour moi à titre personnel, et essayer de faire en sorte de vivre ma vie et d'exercer, en l'occurrence, ce métier-là de la meilleure manière possible, mais également d'avoir toujours conscience du fait que mon objectif reste d'essayer de réduire ces inégalités. Alors, c'est parfois des inégalités face à la guerre ou face au conflit ou face à des grands enjeux de démocratie. C'est parfois aussi important, mais plus prosaïquement, des inégalités face à l'accès aux soins et au fait qu'on arrive ou pas à avoir un médecin au bout du téléphone. C'est pour moi chose facile, c'est pour d'autres un enfer.
Alors, parlons un peu du quotidien de l'hôpital, de ce que vous voyez, mais peut-être aussi de ce que vous voyez depuis 20 ans encore, avec ce regard qui est la profondeur de champ qui est la vôtre aujourd'hui. On parle en ces années 2020 de la crise de l'hôpital. On parle plus seulement de l'hôpital, on parle de la crise de l'hôpital, avec un manque de moyens alloués, avec un manque de personnel. Est-ce que c'est ce que vous constatez tous les jours? Autrement dit, est-ce que vous voyez le verre à moitié plat ou le verre à moitié vide?
Un peu les deux, ça dépend des jours et ça dépend des moments. D'une part, on parle de la crise de l'hôpital depuis toujours. C'est une des constantes autour de la question hospitalière. Et on peut retrouver des articles des années 47, 48, 49 dans lesquels on commence à s'interroger sur la crise de l'hôpital et le fait que les choses ne sont plus comme avant et que c'est compliqué, qu'il n'y a pas assez d'argent et que les infirmières sont pas assez nombreuses et pas assez payées, etc. Et donc, il y a une constante qui est de voir l'hôpital en crise, de voir la santé en crise. Et c'est pas seulement une constante française, c'est une constante assez internationale que de voir l'hôpital constamment en crise. Alors, essayons de m'interroger un peu sur le pourquoi. C'est probablement parce que il y a, plus encore que dans d'autres domaines, un écart constant entre l'aspiration à la fois individuelle et puis pour nous, pour nos proches, pour nos parents, qu'on peut avoir, aspiration qu'on peut avoir à la meilleure santé possible, et puis entre cette aspiration-là, qui peut aller d'ailleurs jusqu'au désir d'éternité, le fait qu'être en bonne santé, c'est être ad vitam, jamais vieillissant, jamais malade, jamais atteint d'une quelconque maladie chronique ou autre chose. Et donc, l'écart entre cette aspiration-là et la réalité, qui est forcément un peu déceptive, explique peut-être ça, hein, et peut-être l'explique plus que dans d'autres domaines. Je ne crois pas qu'en matière d'éducation, ou en matière de justice, ou en matière de sécurité, on ait cette même envie d'absolu dans le champ de la santé, pour ce qui est de notre santé à nous-mêmes, et puis la santé, encore une fois, de nos proches. On a cette envie-là, et donc j'explique cette constante déception face à l'état d'un système de santé quel qu'il soit, peut-être par cela. Et là, les voyages m'ont peut-être aidé à voir le verre bien plus qu'à moitié plein lorsque je reviens de l'étranger. Et ça renvoie à la question de est-ce qu'on relativise ou pas. Quand on atterrit de n'importe où ailleurs et que l'on arrive à Paris ou en France, on ne peut être que subjugué par la qualité du système de santé, par la qualité de nos hôpitaux, par y compris l'accessibilité aux soins, etc. Et puis, il suffit qu'on y ait été pendant quelques semaines ou quelques mois pour que brusquement, on oublie à quel point notre système de santé est exceptionnel par rapport à peu près partout ailleurs sur la planète, et pour revenir finalement à des considérations qui se limite à voir est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'il y a quelques années, ou est-ce que ça peut être un peu mieux ou pas. Et à ce moment, on revoit éventuellement le verre plutôt à moitié vide et à se dire finalement il y a quand même beaucoup de difficultés. Et puis par ailleurs, mon métier m'oblige en fait, à constamment voir à la fois les difficultés et les problèmes. Si je les vois pas, si je les décris pas, si je les affronte pas, il y a aucune chance de les régler et donc d'améliorer le système. Et donc c'est des journées qui sont faites à la fois d'un très grand réalisme sur les difficultés qu'on a. Et en ce moment, c'est des difficultés de recrutement, de rémunération, de fonctionnement des blocs opératoires parce qu'il peut manquer une infirmière de bloc ou un anesthésiste ou que sais-je. Et puis, c'est aussi l'aspiration à maintenir un système de cette grande qualité. Et donc c'est à la fois observer et tenir les problèmes pour essayer de trouver les solutions et les régler. Et puis, c'est aussi se rappeler qu'on a un service public hospitalier qui, je crois, est quand même de qualité absolument exceptionnelle. Donc, c'est un peu les deux.
Oui, mais vous, quand vous avez commencé et quand vous avez continué dans différents hôpitaux, puisque vous êtes passé parfois 2 ans, parfois 6 ans dans des endroits différents, donc est-ce qu'au final, vous avez quand même l'impression que c'est plus dur au quotidien pour le personnel soignant et même pour vous, directeur d'hôpital, de tenir tout ça en permanence? Est-ce que c'est plus dur ou est-ce que non? Sur le long terme, c'est pas plus difficile parce qu'il y a d'autres choses qui fonctionnent mieux qu'avant, parce qu'on a réussi à régler un certain nombre de problèmes.
Alors peut-être que c'est plus dur pour moi d'abord et pour la fonction que j'occupe, en partie en raison de la réponse à la question précédente, c'est que finalement les aspirations sont de plus en plus grandes à l'égard du service public et de l'hôpital, et donc finalement les écarts avec la réalité
se creusent,
en tout cas l'intolérance à ces écarts se creuse. Lorsqu'il y a quelques années, on attendait de nombreuses heures aux urgences avant d'être pris en charge, tout le monde trouvait que c'était, et à juste titre, un scandale. À Marseille en tout cas, et aujourd'hui, les choses vont beaucoup beaucoup mieux, mais on continue à avoir des temps de passage aux urgences qui peuvent être de 3 ou 4 heures, mais pour aussi de l'imagerie, de la biologie, etc., des temps qui me semblent être, moi, de là où je suis, extrêmement raisonnable. Et pourtant, l'intolérance à tout ça est probablement en train de grandir. Ce qui renvoie peut-être à 2 choses. La réalité est-elle pire qu'elle n'a été? Je vais y revenir, mais oui, en partie. Ou en tout cas, est-elle plus difficile qu'elle n'a été? Oui, en partie. Mais par ailleurs, je crois que notre exigence, et peut-être est-ce tant mieux, mais peut-être aussi est-ce un peu risqué pour l'avenir, mais notre exigence à l'égard du fonctionnement de l'hôpital est aussi beaucoup plus grande qu'elle n'était. Je trouve que nous avons eu une tolérance dans les années 80, 90, 2000, par exemple, à l'égard de la mauvaise prise en charge des personnes âgées, qui est, à mon avis, grandement améliorée aujourd'hui. C'est pas très politiquement correct que de le dire, et il se dit plus fréquemment l'inverse, mais je pense que on a considérablement amélioré, par exemple, la prise en charge des personnes âgées à l'hôpital, et pourtant, on continue à être sous l'emprise d'une exigence de plus en plus forte, et à la fois, tant mieux, ça nous oblige à nous améliorer, et ça concourt aussi un peu au risque de déprime collective, alors même que dans certains domaines, la situation s'améliore. Quant à est-ce que la situation est meilleure ou moins bonne pour les soignants, ce qui est absolument certain, c'est qu'elle est, perçue comme étant moins bonne. Et donc, dans une certaine mesure, voilà la réponse à la question. Elle est perçue comme étant moins bonne et beaucoup de soignants sont nostalgiques de comment c'était mieux avant. Deuxième remarque, oui, dans certains domaines, la situation était plus facile. Et notamment, je crois qu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle en langage technocratique une performance hospitalière, sous-entendu une charge de travail pour ceux qui bossent à l'hôpital, qui est extrêmement élevée, qui est plus élevée que par le passé. Et donc, on a à la fois une charge de travail plus importante, moins de monde, et puis un fonctionnement hospitalier qui a beaucoup changé, parce qu'il y a quelques années de ça, un patient passait assez facilement 8, 10, 12 jours à l'hôpital. On est aujourd'hui sur des séjours à l'hôpital qui sont beaucoup plus court, tant mieux pour les patients. Je ne connais personne qui a envie de rester un jour de plus à l'hôpital, et plus on peut rentrer vite à la maison et plus on en est satisfait. Mais pour les soignants, ça veut dire qu'une infirmière ou un médecin ou une aide-soignante côtoie des patients pendant un temps très court, comme en plus c'est pas le même qui est le matin, l'après-midi ou la nuit. Ça fait une relation au sein de l'hôpital entre les patients et les soignants qui a considérablement changé et qui est probablement moins agréable, en ce sens qu'elle laisse moins de temps à autre chose que le strict soin. Et donc je pense qu'une des évolutions majeures, c'est que l'hôpital est devenu un endroit dans lequel les patients ont envie de passer le moins de temps possible et pour les soins les plus aigus. Et il faut se mettre à la place des soignants qui donc ne voient plus les patients que pendant des temps extrêmement courts et à des moments extrêmement acutisés et aigus de la maladie. Et ça, je crois que c'est une des évolutions majeures des dernières décennies et qui doit nous interroger sur quel est donc le sens au travail des professionnels qui travaillent à l'hôpital et qui sont confrontés à cette réalité-là. On parle souvent les uns ou les autres avec nos proches de la médecine ou de la chirurgie ambulatoire. On rentre le matin, on sort le soir. Et je crois beaucoup de patients, la majorité d'entre eux, trouvent que c'est une bonne chose, sauf exception. Et parfois, il faut redonner un peu de temps aux choses, mais beaucoup de gens...
Oui, parfois, les patients considèrent qu'on les met dehors pour le dire poliment.
Probablement certains.
Et un peu rapidement.
Peut-être certains considèrent qu'on les met dehors, mais quand bien même il resterait une nuit de plus ou le lendemain, encore une fois, vu du point de vue de l'organisation hospitalière et des soignants, cela n'empêche pas le fait que, de toute façon, le temps de relation et de relation aux soins, de relation aux patients, est devenu extrêmement court à l'hôpital. Et donc, ça transforme indiscutablement le rapport aux malades.
Est-ce qu'on peut changer les choses, François Crémieux, de ce point de vue-là?
Alors, je ne pense pas qu'il faille changer les choses et réallonger pour le plaisir le temps à l'hôpital. Je ne crois pas que ce soit l'endroit où on dorme le mieux, où on mange le mieux et où on soit réveillé de la manière la plus agréable le matin. Donc, je pense que pour les malades, tant mieux qu'on ait fait des progrès considérables en anesthésie ou pour certains traitements et que les durées de séjour aient considérablement diminué. En revanche, je pense qu'il faut changer la manière dont les professionnels sont en lien avec les malades au-delà de la seule séquence hospitalière. Les malades étaient malades avant d'arriver à l'hôpital, ils vont continuer à l'être un peu après. Certains d'entre eux sont porteurs d'une maladie chronique depuis très longtemps et vont continuer à être malades plus longtemps. Et donc probablement qu'il faut qu'on imagine une meilleure continuité humaine de relation entre les professionnels de santé et les malades. Ce que globalement réussissent souvent à faire beaucoup de médecins dans beaucoup de disciplines qui sont finalement en contact au travers des différentes consultations avant, pendant et après l'hospitalisation. C'est pas du tout vrai pour l'infirmière de l'après-midi qui est là le mardi lorsque vous êtes hospitalisé et qui ne sera peut-être pas là le lendemain quand vous serez là une deuxième ou une troisième journée. Et donc voilà, on a un sujet qui est pas très facile à traiter, qui est la relation entre les soignants et les soignés et comment est-ce que on maintient le sens au travail de professionnels pour lesquels le sens ne se limite pas au fait de faire une perfusion ou un prélèvement dans de bonnes conditions, mais d'accompagner une personne dans sa maladie.
Entre 2020 et 2022, le monde, la France et les hôpitaux donc ont traversé une crise majeure avec la pandémie de Covid-19, les vagues épidémiques successives ont exténué des professionnels de santé dans un cadre, dans un contexte qui était déjà fragile. En tous les cas, c'est ce qu'ils disaient avant. Et en même temps, on a entendu à la fois que l'hôpital avait résisté en France et on a entendu aussi des médecins s'exprimer en disant « on a retrouvé le sens de notre métier ». En particulier aussi, on a repris la main sur une administration qui, d'année en année, se fait de plus en plus pesante, de plus en plus présente, et nous a fait perdre la relation aux soins et à l'essence même de ce qu'est notre métier. Est-ce que en 2023, au moment où nous enregistrons, François Crémieux, vous diriez que cette relation entre la médecine, le soin et la gestion, l'administration dont vous occupez la place, est aujourd'hui une relation saine?
D'abord, pour rebondir sur la première partie de la question et sur ce que disent les médecins ou les soignants sur cette période de Covid, je dirais exactement les mêmes choses avec les mêmes mots. Je me suis, moi aussi, pendant 2 ans, consacré à l'essence même de mon métier. Je me suis exonéré de la plupart des contraintes administratives qui s'imposaient à moi ou que j'imposais à d'autres. On a vécu 2 années avec une absence totale de contraintes économiques, de difficultés de prendre des décisions. C'était assez simple. Il y avait un enjeu unique. Tout le monde au sein de l'hôpital était d'accord. Il n'y avait jamais d'engueulade, pour dire les choses un peu concrètement, entre quiconque. On ne se demandait pas si le bloc opératoire allait être d'abord utilisé par les uns ou par les autres. Et donc, ce que disent les soignants sur cette période-là, je trouve qu'ils ont raison, mais là où ils auraient tort, ou là on aurait tort de l'interpréter comme ça, c'est que c'était pas une position de soignant versus les directeurs ou l'administration, c'est au contraire une période pendant laquelle tous ces gens-là ont collectivement travaillé avec un monde à la fois très compliqué pris dans cette crise et dans une certaine mesure extrêmement simple. Il n'y avait plus qu'une seule, au pic de la crise, il n'y avait plus qu'une seule maladie à traiter, il n'y avait plus qu'une seule priorité de santé publique, il n'y avait plus aucun arbitrage, aucune décision à prendre, la vie était dans une certaine mesure relativement simple. Et puis elle se recomplexifie dès qu'on ressort de la crise, parce qu'on ressort de la crise, et aujourd'hui à Marseille, au moment où la crise commence à vraiment s'estomper et à s'éloigner, bah il faut qu'on reprenne des décisions entre nous, entre médecins et directeurs, mais entre médecins tout court et entre directeurs aussi, sur quelles sont nos priorités, où est-ce qu'on va investir en premier, quel équipement on va acheter, quel équipement on va reporter à plus tard, est-ce que le bloc opératoire doit être d'abord dédié à telle discipline ou à telle autre. Et donc on retrouve la complexité de prendre des décisions dans un environnement un peu difficile qu'est celui de l'hôpital, et donc on retrouve un peu de frottement. Et donc en ce sens-là, on est revenu un peu au monde d'avant. Mais je crois aussi qu'on n'a pas totalement perdu cette mémoire-là, en tout cas de nouveau pas là où je suis aujourd'hui et à Marseille. Et je crois que les relations entre entre les différentes équipes, et notamment administratives et médicales, mais pas que, reste très imbibé de cette période-là et d'une période qu'on a quand même tous en mémoire comme ayant été plus qu'une période où l'hôpital a résisté. Moi, je trouve qu'on peut dire de cette période soit qu'avec le verre un peu à moitié vide, l'hôpital était déjà très fragile, très malade, et pourtant il a tenu. On peut aussi se dire de nouveau, notre hôpital était finalement beaucoup plus solide qu'on ne le disait, était beaucoup plus résilient et fort qu'on ne le prétendait, et donc il a été capable de faire face à une crise d'ampleur absolument exceptionnelle. C'est peut-être aussi la démonstration que notre service public hospitalier n'allait pas si mal que ce qu'on disait.
Bon, alors, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent un peu moins bien. Comment voyez-vous un avenir, disons, assez proche? Allez, on va se projeter dans 10 ans ou un peu moins, même allez, en 2030, pour que le chiffre soit rond. À quoi devrait ressembler l'hôpital en 2030? Vous pouvez pas me dire à celui qu'il est aujourd'hui.
Non, alors d'abord, je pense qu'il faudrait qu'il soit pas moins bien. Il faut quand même qu'on soit vigilant à ce que toutes les contraintes extérieures, qu'elles soient des contraintes économiques, financières, d'attractivité des métiers, de rémunération, etc., ne viennent pas dégrader le système. Deuxième remarque, c'est que nos hôpitaux, les hôpitaux publics en particulier, n'ont de sens que s'ils contribuent effectivement à un certain idéal du soin et de l'équité et de la prise en charge de tous face à la maladie. Et donc, je pense que l'un des enjeux entre maintenant et 2030, c'est de renforcer cette mission-là de l'hôpital. Et par exemple, face à des choses très concrètes que sont les déserts médicaux, les difficultés d'accès aux soins, etc., je pense qu'il faut que l'hôpital public en particulier, entre maintenant et 2030, soit beaucoup plus actif sur cette question particulière. On est moins face à des enjeux de la nature, des enjeux des années 70 ou 80, qui étaient faire les premières grèves de ceci, les premières grèves de cela. On était dans des enjeux scientifiques à l'époque qui étaient de la performance un peu exceptionnelle. Il reste aujourd'hui des enjeux de performance exceptionnelle sur des immunothérapies, sur la lutte contre le cancer. Il va continuer à y avoir des choses autour de la génétique, des choses importantes dans les années qui viennent. Mais je crois qu'il y a aussi un enjeu, non pas de ralentir le progrès, c'est évidemment pas ça le sujet, mais de s'assurer que notre progrès dans ce domaine-là, scientifique et médical, continue à contribuer à un bien commun. Et c'est peut-être une de mes inquiétudes, et à contrario d'une inquiétude, l'un de mes engagements au quotidien, de m'assurer que ce qui peut progresser dans cette société le fasse au bénéfice de tous.
Merci François Crémieux.
Merci à vous.
On se retrouve demain pour la dernière émission de la série. Nous parlerons de deux figures qui ont compté pour vous, Chris Marker et Georges Semproun, et puis d'une revue avec laquelle vous avez un long compagnonnage, qui est la revue Esprit. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Stéphane Foulon, réalisation Asia Khalid, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.